que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Écouter une œuvre, c'est en suivre les points de nervure, les balises, les manières d'avancer ou de reculer dans le discours, tout ce qui peut permettre de reconnaître l'écriture de tel compositeur ou telle compositrice. Mais dire les choses comme ça relègue l'engagement des interprètes ou bien la perspective prise par qui écoute, et puis en fait tout ce qui tient du geste, pour des éléments au service du texte. À l'encontre de cette hiérarchie qui met toujours le texte au-dessus de tout, Alvaro Oviedo explique que la musique n'est pas ce que le compositeur écrit, ce n'est pas ce que l'interprète joue, ce n'est pas ce que l'auditeur perçoit, ce n'est pas non plus l'en-soi d'un ensemble organisé de sons, c'est tout cela à la fois. Ou plutôt ce qui se passe entre ces termes, termes qui sont eux-mêmes des nœuds de relation. Cette affirmation est le point de départ de l'essai d'Alvaro Oviedo « Faire sensation » paru aux presses universitaires de Rennes, et qui explore les œuvres et la pensée musicale de Luciano Berio, d'Helmut Laronmann, Olga Neuwirth ou encore, pour commencer, de Giorgi Kurtág. Alvaro Oviedo est l'invité unique de ce numéro Faire de Métaclassique. Bonjour Alvaro Oviedo.
Bonjour.
On vient d'entendre Maria Grazia Bellocchio interpréter l'hommage à Tchaïkovski écrit par Giorgi Kurtág. On peut se rappeler effectivement le concerto pour piano de Tchaïkovski. Commence par ces espèces de quasi-clusters que Kurtág explicite comme cluster. En fait, il raconte que quand il a commencé le piano, il a demandé à sa prof quand est-ce qu'il pourrait jouer le concerto de Schumann, et sa prof lui a répondu peut-être dans 4 ou 5 ans. Manifestement, il n'a pas très apprécié cette réponse, c'est ce qu'il faut comprendre.
Oui, en tout cas, c'est en revenant sur cette sensation de vouloir jouer quelque chose et ne pas avoir peut-être encore les moyens technique de les faire et de donner la possibilité aux jeunes musiciens de jouer peut-être les concertos de Tchaïkovski. Mais peut-être ce qu'il va faire dans cet hommage, c'est rendre sensible la dimension gestuelle et la force de cette matière musicale chez Tchaïkovski.
Qui devient plus importante même que la note.
C'est ce qu'il dit en tout cas dans la préface.
Il dit la note importe peu, ce sont plutôt le geste et le registre approximatif qui comptent.
Voilà, parce que, bon, je ne sais plus maintenant, mais on a l'image d'un apprentissage du piano qui fait qu'on s'intéresse plutôt à chercher la note avec circonspection, à compter les rythmes et à laisser pour plus tard le geste.
Oui.
Et lui, son projet, au contraire, dans ses premiers cahiers de Yatekok, c'est de mettre le jeune musicien tout de suite dans un contact corporel et gestuel avec le piano pour développer cette dimension gestuelle.
Il reprend la pratique d'un pédagogue hongrois, Yéne Adam, qui disait à ses très jeunes élèves « Prends ce son, cours autour de la maison et ramène-le ».
C'est ça, c'est-à-dire que l'expérience physique doit s'entendre. C'est-à-dire qu'un son, ce n'est plus une question des notes, ce n'est plus une question de son, c'est une question des gestes. Et cette dimension physique doit en quelque sorte s'entendre, articuler et conduire le processus musical.
Le titre de certains de ces exercices dans les Yatekok, c'est « En se promenant, à petits pas, en s'ennuyant, faisons les fous ». C'est ça, faire de la musique?
En tout cas, c'est l'enseignement que l'on peut tirer, peut-être le plus important,
oui,
de ces compositeurs. Ouais. C'est un jeu. Yatekok veut dire jeu. un hongrois.
Alors, il y a quelque chose d'à la fois élémentaire et hédoniste dans cette idée du jeu, puisque ce bonheur du jeu, il est un bonheur du mouvement. La préface dit qu'il s'agit donc de circuler sans peur et s'il le faut, avec rapidité, sur tout l'espace du clavier, dès le début de l'apprentissage, au lieu de chercher la note avec circonspection et au lieu de compter les rythmes.
Ouais, c'est ça, c'est...
Ben, c'est l'idée que l'écrit, la partition, pourrait nous détourner de ce que c'est que de faire la musique.
Ou plutôt, bon, la partition est toujours importante, mais il faut savoir la lire et ne pas rester dans quelque chose d'un peu carré. C'est pour ça aussi qu'il va développer une autre façon de noter les rythmes, par exemple. Il se rapproche plutôt de Neum, de cet aspect plus corporel de l'écriture elle-même. Et que donc, lire la musique, c'est aussi suivre un peu les graphismes, mais de manière un peu mimétique.
Les compositeurs, compositrices qu'on va évoquer aujourd'hui sont dans une forme de défiance devant l'idée de discours musical, j'ai l'impression, en même temps qu'ils ne cessent quand même de s'y référer.
Oui, en tout cas, ce que j'essaie de montrer dans ces livres-là, c'est que il y a à la fois toute une tradition de l'écriture musicale qui est fondamentale, et en même temps, quelque chose de général au XXe siècle qui est une importance du geste, c'est-à-dire de donner à entendre les corps qui jouent. Et l'écriture devient une façon aussi de construire des corps sonores, des corps musicaux.
Vous dites que la musique est une sensation en train de se faire, du reste le titre du livre c'est « Faire sensation », mais le sous-titre, ce sont trois infinitifs, c'est-à-dire trois devenirs que vous attachez dans la graphie, jouer, écouter, écrire, un peu comme si c'était un seul et même verbe.
Oui, parce qu'il me semblait important, en tout cas dans l'expérience que j'ai de l'enseignement de la musicologie, et dans l'expérience de la musique, que parfois ces dimensions apparaissaient comme un peu séparées. En tout cas, c'est d'un point de vue institutionnel déjà. On a d'une part les conservatoires, d'autre part l'université, et avec une approche théorique, avec une approche pratique, et il fallait aussi voir, d'un point de vue musicologique, comment étudier la musique, c'était s'intéresser aussi bien à la partition qu'à l'interprétation qu'à l'écoute. Ça s'inscrit aussi dans ces tendances de la musicologie des performance studies, c'est-à-dire de donner importance à la performance. Mais dans ces cas précis de ces livres-là, c'est cette performance qui est en quelque sorte impliquée déjà dans l'écriture, dans la composition.
Parce que le fait est que vous affirmez jouer, écouter, écrire comme constituant un continuum du corps et du son, je me suis demandé si dans votre esprit, il n'y avait pas dans ce continuum quand même une sorte de flèche qui tirait le son vers le corps un peu plus que l'inverse.
Je pense que la dimension, oui, du jeu et de la performance est peut-être première. Parce que c'est à ce moment-là que le corps, il est confronté à la fois à la production et à la sensation du son. Et que, en tout cas, oui, je pense que c'est le jeu qui prime.
Parce que là, dans ce qu'on vient d'entendre, cet hommage à Tchaïkovski, clairement, la dépense gestuelle de là ou du pianiste, enfin, est censée l'emporter même sur le résultat sonore.
Oui, tout à fait. C'est le... Courtag, dans ces cas-là, dans Yatekok, il va partir pas des trois sons, mais vraiment des trois gestes. Que ce sont ceux qui feraient peut-être l'enfant s'il se retrouve face à un piano, c'est-à-dire appuyer avec force un cluster ou faire un glissando. Et c'est vraiment cette approche, cette expérimentation corporelle dans les contacts avec l'instrument.
Alors, je parlais d'une défiance à la dimension discursive de la musique, sauf que c'est quand même ancré dans une sensibilité on ne peut plus discursive à la musique. Votre réflexion repart beaucoup d'un texte de Roland Barthes qu'on trouve dans L'Obvie et l'Obtus, lequel il dit « Dans les Kreisleriana de Schumann, je n'entends à vrai dire aucune note, aucun thème, aucun dessin, aucune grammaire, aucun sens, rien de ce qui permettrait de reconstituer quelque structure intelligible de l'œuvre. Non, ce que j'entends, ce sont j'entends des coups, j'entends ce qui bat dans le corps, ce qui bat le corps ou bien ce corps qui bat.
Alors oui, c'est un texte qui est pour moi très très important et dans l'approche de la musique. Barthes, il était musicien et on sent quand il écrit...
Le pianiste qui parle.
Ouais. Voilà, le pianiste qui parle et comment il va mettre en avant cette dimension de ce qu'il appelle aussi dans d'autres textes une musica practica, c'est-à-dire une musique qui ébranle en nous pas tellement les réconforts de l'écoute, mais plutôt l'envie de faire de la musique et de penser la musique au-delà, justement, oui, du discours, de la signification, de l'analyse musicologique, de l'approcher plutôt par une voix sensible, corporelle, et penser la musique aussi comme quelque chose qui fait corps.
C'était Vladimir Horowitz qui interprétait la 7e page des Kreisleriana, l'opus 16 de Robert Schumann, une partition sur laquelle on peut lire « serre rache » et c'est précisément sur ce mot « rache » que Barthes focalise en disant que lui qui ne parle pas allemand, qui devant cette langue étrangère n'a à sa disposition qu'une écoute stupéfiée, il dit « j'y ajoute la vérité du signifiant ». Et dans le mot « rache », ce qu'il entend, c'est comme s'il avait un membre emporté, arraché par le vent, le fouet, une espèce de violence.
Il y a cette matérialité sonore du mot,
oui,
qui donne un peu sens au mot. Et en effet, qu'est-ce que c'est que jouer comme en s'arrachant? C'est une figure Schumann qui est aussi bien importante pour qui est très importante pour Barthes, sur laquelle Courtag va revenir plusieurs fois en le réécrivant. Voilà.
Parce que il y a une espèce de paradoxe à nouveau de la part de Courtag à tirer la voix vers sa matérialité. On va l'entendre dans un instant dans une pièce qui s'appelle Samuel Beckett, What is a World, et à l'enrober quand même d'une sorte de supériorité ontologique de la voix par rapport à tout son instrumental, qui vous fait dire que la voix est le lieu du langage en musique, mais elle est aussi, selon Courtag, mais aussi selon Berlioz, le plus puissant véhicule des affects à travers elle. Le langage abandonne la communication, devient matière, figure, musique.
Oui, ce qui se passe dans la voix, c'est qu'il y a ces deux dimensions de la signification et de l'affect. Et chez Courtag, ça prend une forme assez particulière, c'est-à-dire que très souvent, sa musique va adopter un geste parlando, Elle va faire comme si elle parlait.
Donc, elle reste en prise avec la parole.
Ouais, c'est. Mais il y a d'autre part aussi, comme on a écouté tout à l'heure, ces gestes un peu sauvages des concertos de Tchaïkovski. Il y a ces deux dimensions-là, et de la parole et du corps, qui peut-être ne s'opposent plus, entre lesquels il y a peut-être une continuité.
Et cette continuité, vous dites qu'elle contribue à une forme de déstylisation du geste. Pourquoi ?
Alors, parce que ce qui se passe chez Courtac, c'est qu'il y a les deux choses. Il y a en même temps des figures stylisées qui renvoient à une sorte de rhétorique traditionnelle des significations affectives qui vient depuis la naissance de l'opéra, voire plus tôt.
Qui affecte des figures rhétoriques sur chacun des gestes vocaux, on peut dire comme ça.
Ouais. Et en même temps, il y a les cris tels quels, ou les rires, ou l'angoisse. C'est-à-dire quelque chose de plus immédiat, si l'on veut.
Oui.
Et par la force du geste qu'il imprime dans sa musique, il va sortir de l'opposition que l'on pourrait penser qu'il y ait entre figures rhétoriques et entre les cris immédiats.
Mais vous dites plus immédiat si l'on veut. J'aime bien cette précaution de langage du si on veut, parce que moi j'entends effectivement une volonté théorique de mettre le cri un peu à l'écart du discours, mais en soi il peut en faire partie, non ?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Écoutons donc un extrait, le début de Samuel Beckett, What is the World, de Georgi Kurtag. On programme la voix à se mettre un peu en dehors du sens, comme si on voulait accuser d'un divorce entre cette dite matérialité de la voix et le contenu qui ressort d'elle de toute façon, non ? Oui.
Alors, je sais pas, à nouveau.
Peut-être qu'il y a la question de la figure, parce que, par exemple, vous mobilisez, Alvaro Oviedo, les écrits de Monique Wittig, qui nous dit que le langage qui s'abstrait de sa matérialité, c'est ce que, par exemple, Lyotard appelle le discours, en faisant une séparation entre discours et figure, avec l'idée que la figure pourrait donc effectivement contenir des signifiants un peu plus détachés de signifier que les autres, quoi.
Oui, mais ce qui est important et intéressant chez Lyotard, je crois, c'est que il n'y a pas. La figure peut intervenir même dans les discours.
Ouais.
Ou en tout cas, il est toujours mobilisé et traversé par la figure. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui apparaît comme une opposition, en réalité, C'est une
articulation, en fait.
Une articulation. Ouais.
Alors, parce que Deleuze et Guattari, dans l'anti-Oedipe, ils font un sort à cette pensée de Lyotard en disant que partout où Lyotard renverse l'ordre du signifiant et de la figure, ce ne sont pas les figures qui dépendent du signifiant et de ses effets, c'est la chaîne signifiante qui dépend des effets figuraux, faite elle-même de signes asignifiants, écrasant les signifiants comme les signifiés, traitant les mots comme des choses, fabriquant de nouvelles unités, faisant avec des figures non figuratives des configurations d'images qui se font et se défont. Alors j'ai pas très bien compris ce que font Deleuze et Guattari à cet endroit, c'est de critiquer un peu Lyotard dans l'idée qu'il manipule la figure pour faire un peu l'inverse de ce qu'elle est censée faire quand on en parle au sens de la figure rhétorique, quoi, c'est ça ?
Oui, non, il ne s'agit pas forcément de la figure rhétorique. Et je ne sais pas s'il les critique, parce que, en tout cas, ce terme de figure va être fondamental dans un livre plus tard chez Deleuze,
oui.
Le livre qu'il dédie au peintre Francis Bacon, où il s'agit justement de faire la distinction entre le figuratif et le figural. Et, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui sera toujours de l'ordre du figuratif, du représentatif, mais il va s'agir peut-être de l'arracher à cette condition-là, de le tirer vers le figural.
Mais vous, ça vous sert à quoi, ce débat-là ?
Moi ?
Oui. C'est-à-dire, dans votre écoute de compositeurs comme Berlioz, par exemple, à quoi ça sert que de faire cette différence entre figuratif et figural ? Parce qu'en effet, ça vient attirer l'oreille sur ce que, dans le rapport que Berlioz développe avec la voix, il va se mettre peut-être sur une ligne de crête entre quelque chose de très instrumental et puis quelque chose de quand même très discursif.
Oui. Mais il me semble, pointer justement ces problèmes.
Oui.
Et ça me sert, voilà, à les signaler et à essayer de sortir aussi d'une certaine approche qui concerne surtout Courtat, qui veut voir chez lui quelque chose qui serait un travail sur des topiques ou sur des matériaux déjà préexistants et à chercher une forme de signification là-dedans. Et que donc, dans l'art musical, il y a toujours quelque chose qui tire même ces éléments qui peuvent être de l'ordre du topique vers d'autres dimensions qui seraient irréductibles à ces dimensions-là.
Parce que là où on pouvait avoir l'impression, en écoutant le Beckett Was His World de Courtag, qu'il tirait la voix justement un petit peu en dehors du discours, comme pour mettre en antagonisme la matérialisée de la voix et le discours, est-ce que vous diriez que Berlioz a une stratégie qui est plus continuiste, c'est-à-dire qu'il mettrait davantage de dialectique entre la matérialité de la voix d'une part, le discours d'autre part ?
Non, justement, je crois que c'est le contraire que chez Berlioz.
C'est encore plus exacerbé.
Chez Berlioz, il y a, c'était pour moi en tout cas, chez Courtag, il y a encore des figures de l'ordre de la rhétorique qui sont moins présentes chez Berlioz. Et je ne sais pas si on pense
à... Ah, donc Berlioz, pour vous, il est encore plus extrait du discours ?
Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire, si on pense à la séquence, ou à Visage, ou à Aaron. Bon, non, peut-être pas Aaron, parce que... oui, je pense que Berlioz s'extrait encore davantage.
Voici le début de sa troisième séquenza.
Give me more.
C'est un extrait de la Seconde à 3, donc pour voix de Berio par Cathy Berberian. Alvaro Oviedo, est-ce qu'on peut dire qu'en effet, ces bouts de rire qui sont quand même en représentation sont à ce point sortis du discours?
Alors, moi je pense que oui.
Oui.
Et je ne les prends justement pas comme représentation, en tout cas.
Ah oui, et vous dites que quand il fait ça, il s'inspire d'un clown qui s'appelle Grock, qui fait beaucoup de gags musicaux. Quel est le rapport?
Alors, il raconte cette anecdote Berio d'un clown face auquel on ne sait pas s'il fallait pleurer ou rire, ou faire les deux choses en même temps. Et je pense que c'est cette ambiguïté, cette chose-là face à laquelle on ne sait pas comment réagir, qui caractérise, voilà ce que j'essaie d'expliquer là dans ce livre autour de la question de la sensation, et qui justement va au-delà d'une simple question de représentation.
Et vous mobilisez Barthes qui parle dans ce même texte Rush de signifiance, c'est-à-dire que la musique n'est pas un système de signes qui sert la communication, mais quand même un champ de signifiance qui n'est pas complètement dépourvu de sème, quoi, et qui a le corps comme référent, dont les éléments sont des somatèmes. Et alors, c'est là que arrivent l'obvi et l'obtu, qui sont, si je comprends bien, des régimes de paroles qui peuvent être chargées par la musique, mais qui sont dans des endroits non communicationnels du langage.
Oui, il parle des trois régimes des signes, et il faut aller jusqu'au troisième, c'est-à-dire jusqu'à celui de la signifiance, pour ne pas rester dans le simple d'abord indice, et puis aussi dans les signes qui représentent, il parle d'un film d'Einstein, dans l'ensemble des figures rhétoriques qui constitueraient un réservoir,
oui,
d'éléments tout faits.
Ouais, parce que les trois niveaux dont vous parlez, donc le premier, c'est la communication au sens, disons, d'un rapport journalistique au langage, c'est réaliste, tout ça. Le deuxième, ce serait le symbolique, c'est ce qu'il appelle l'obvi, c'est ça?
Ouais. Et le troisième, oui, ce serait l'obvi, c'est-à-dire ce qui va au-delà et de la communication et du symbolique.
Donc c'est ce qu'il appelle la signifiance, pareil.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est ça que l'on entend, par exemple, dans Aaron.
Il me semble bien, oui.
Alors, Aaron, c'est une pièce que Berio compose pour la radio. Comment il procède? Il prend des extraits de la Bible, de la Divine Comédie de Dante, de Faust ou de Goethe?
Alors, il travaille avec Sanguinetti, avec qui il avait déjà travaillé,
ouais,
qui lui prépare un peu un montage mobile, et non pas un texte qu'on utilise du début à la fin, mais plutôt un montage des citations que l'on peut travailler librement en tant que compositeur, récomposer, et qui va être dit à plusieurs reprises. Et puis à chaque fois que c'est dit, eh bien ça apparaît sous une autre lumière affective, mettant en contradiction parfois les sens des mots avec l'affect vocal.
Parce que vous disiez qu'il creusait quand même, disons, la frontière entre ce que Barthes appelle la communication et l'obvi. Sauf que il va en effet mobiliser des rots, des toux, des rires, des ronflements, enfin tout ce qui serait cette matérialité du langage qui n'a pas besoin de signifier ou ne peut pas signifier. En même temps que il ajoute à ces différents gestes vocaux des indications très affectivement identifiées comme furieux, sensuel, triste, rêveur.
Ouais, oui, c'est ça. Il y a une matérialité de la voix à travers lesquelles le corps s'exprime. Il y a des indications affectives et puis il y a ces textes tirés en effet de la Bible, des différentes sources.
Alors ça, c'est ce recours à des indications de jeu qui sont presque sans ambivalence émotionnelle. C'est un point commun qu'on retrouve entre Berlioz, mais aussi Courtag et Laron Mann, ces trois compositeurs que vous évoquez.
Oui, surtout chez Courtag, et il me semble. Chez Courtag, il y a, je sais pas, surtout, il y a Hesitando.
Ah oui, alors pourquoi il met Hesitando? Il dit, j'essaie toujours d'emmener les gens à ne pas savoir encore, à ne pas décider encore de quoi il s'agit.
Oui, c'est comme presque une méthode de composition, ne pas savoir encore qu'est-ce qui va se passer. Il met en musique aussi un texte de Kafka, où il parle de l'enfant qui cherche ce mot qui n'est pas encore, qui ne sait pas encore comment dire.
Ah oui.
What is the word?
Alors c'est marrant parce que il dit, Courtag, mon problème c'est quand quelqu'un sait trop bien ce qu'il veut, et ça fait un écho absolument direct, je ne sais pas lequel est en premier, avec une phrase de Laron Mann qui écrit « Je me méfie du compositeur qui sait exactement ce qu'il veut, car d'habitude il veut ce qu'il sait, et donc très peu. »
C'est ça, Laron Mann pense la composition... Et bon, il y a tout un savoir, mais il y a aussi une dimension de la composition qui c'est celle de se, non pas tellement se laisser faire, mais de se laisser venir, d'aller au-delà des décisions prises en conscience. Voilà, d'aller au-delà de
en pleine conscience, comme on dit dans d'autres registres. Avant d'en venir à Laron Mann, je vous propose d'écouter un extrait de cette pièce de Luciano Berio qui s'appelle donc Aaron et qu'il compose pour la radio.
Anfang?
In principio, nel mio principio.
Am Anfang, in my beginning. Ach, in principio, erat!
Extrait de Aaron, une pièce de 1974 de Luciano Berio. Vous dites, Alvaro Oviedo, dans Faire sensation, que pour Berio, faire un geste, c'est assumer les significations et prendre une position critique devant l'histoire qu'il contient.
Oui, il va assumer cette dimension historique, mais justement en les tirant vers quelque chose d'autre. Donc c'est cette dimension aussi critique. Et c'est comme ça aussi qu'il définit la voix, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comme lieu à la fois et du langage, du discours, et les véhicules les plus puissants des affects. Et ce sont ces affects-là qui vont tirer la communication vers quelque chose d'autre, qui vont décomposer les mots, qui vont amener les mots vers leur matérialité.
Alors vous dites en effet que on ne peut pas complètement réduire la matière sonore à un langage abstrait, c'est ce qui maintient une forme de séparation entre discours et matérialité de la voix, pour reprendre le vocable qu'on a pris tout à l'heure, mais aussi parce que le langage abstrait tout court, il n'existe pas.
C'est ça. cette idée-là de la performativité du langage,
Ouais.
c'est-à-dire il n'y a pas d'une part le mot, d'autre part les choses, ce sont voilà, les mots, la matière agit, les mots font acte, et dans leur hétérogénéité, ils interagissent.
Et pour dire tout ça, vous mobilisez beaucoup d'auteurs féministes, je pense notamment à Karen Barad, à Monique Wittig, que je citais tout à l'heure, ou Donna Haraway.
Oui, alors ce sont des lectures qui m'ont beaucoup marqué et qui, me semblait, pouvaient conduire à une autre façon de penser la musique. Il y a cette dimension et de ce féministe, de ces lectures qui apparaît dans les livres, non pas tant comme une étude culturelle ou sociologique, mais qui interviennent plutôt presque comme des catégories esthétiques pour essayer de voir un peu qu'est-ce que ces textes peuvent nous dire de la musique.
Donc on pourrait faire des sortes d'analogies. On commençait l'émission en parlant de Courtag qui voulait faire entendre qu'on fait du piano beaucoup plus qu'on ne joue un seul. Et là, quand vous mobilisez par exemple Karen Barad, c'est pour dire que on produit de la matière verbale beaucoup plus que on ne sert un sens.
C'est ça, c'est
C'est le même ordre d'idées.
voilà,
Ouais,
vous
c'est
l'avez
ça.
bien résumé.
Karen Barad, elle dit que le tournant linguistique, le tournant sémiotique, le tournant interprétatif, le tournant culturel, bah en gros, tout ça, c'est du logocentrisme.
Bah, un peu, et que la matière reste un peu
Un peu en rade.
un rade, et que donc, pour cela, peut-être, il faut aussi considérer les mots matériellement comme en termes de force. De la même façon que l'on considère la musique, et que là, donc, du coup, oui, on peut revenir au lien entre matière et langage.
Mais est-ce qu'on peut trouver des explications au fait que bah, la matière soit toujours à ce point mise à distance?
Il y a quelque chose de la matière qui est un peu, comment dire,
Rebuté?
insoumise, qui ne se laisse pas faire, peut-être.
Ouais.
On a cette impression, en tout cas dans la composition, que la composition travaille avec un matériau qui est déjà là et qui, en tout cas, est le substrat du désir. Alors que ce que j'essaie de montrer dans ces livres-là, c'est que la matière elle-même est désirante. C'est quelque chose qui ne va pas tout à fait de soi, peut-être. C'est Karen Barad, mais aussi Deleuze et d'autres encore, pensent en termes de vie, la matière, sans la séparer de l'esprit, et en tant que voilà qu'un flux désirant.
Quand Judith Butler explique que le genre est performé plus qu'il n'est, par exemple, bah, naturel, on peut dire comme ça, elle dit la différence entre expression et performativité est cruciale. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur cette phrase? Pourquoi est-ce que expression serait si différente de performativité alors?
Alors, c'est quelque chose qui m'a semblé important pour approcher la musique et l'effet musical.
Ouais.
Et quand on parle de performativité, on parle de quelque chose qui s'est fait et qui, en même temps, on peut aussi défaire. Et alors que quand on parle d'expression, dans le cas de Butler, c'est plutôt l'expression d'une essence à laquelle on ne pourrait
Ah,
pas toucher. Alors
d'accord.
que c'est tout un travail de défaire tout ce qui se donne comme essentiel, et que si l'on peut faire le genre, on peut aussi le défaire.
D'accord. Ah oui, c'est parce qu'elle attache l'expression à un essentialisme que, par
Voilà.
conséquent, elle l'oppose à la performativité. J'ai compris. On va pouvoir en venir donc à l'Iron Man. Et essayons d'écouter pour commencer un extrait de sa pièce Pression.
Thank you.
Le violoncelliste Éric Maria Couturier dans un extrait de Pression d'Helmut Laronmann. Dans votre livre Faire Sensation, Alvaro Oviedo, vous dites « Il n'y a que Laronmann pour traiter le violoncelle de la sorte ». À ce point ?
Je crois que oui. Et on voit sur la... On trouve sur Internet la vidéo justement de ces violoncellistes et on voit l'archer au bout de la performance un peu défait. C'est tout un travail d'aller au-delà de ce qui semble être la nature du violoncelle, le son vibré et philharmonique dont parle Laronmann. Et pour cela, il faut transformer son usage, explorer des nouvelles zones d'action, que ce soit avec l'archer, avec les doigts. Et donc, au bout, on a une autre sorte de matière sonore, musicale, qui va au-delà de la note, au-delà du son, qui est ce que Laronmann appelle la corporeité ou l'énergie. C'est-à-dire, le son nous fait sentir l'énergie et les gestes impliqués dans sa réalisation.
Et pour bien acter ça, Laronmann fait une distinction entre deux grands types de sons. Il y a les sons processus et les sons état. En quoi est-ce que cette distinction aide à saisir ce qu'il produit ?
Alors, c'est une distinction qu'il emprunte à Stockhausen,
oui,
qui fait la différence entre deux sons qui se déploient dans les temps et qui ont besoin de ce temps-là pour se déployer, et des sons plutôt statiques que l'on peut couper là où on veut, où il n'y a pas de processus, où la musique semble faire du surplace, où le son semble s'abstraire de sa condition de devenir.
Donc si on prend des exemples, le son processus typiquement, ce serait le début des Bagatelles pour quatuor, l'opus 9 de Webern.
Un son processus, c'est un son, ce qu'il appelle un son structuré, c'est-à-dire où il se passe des choses qui ont besoin pour se déployer, les temps dans lesquels il se passe. Et ça peut être un son ou ça peut être aussi toute une pièce. Il parle, oui, en effet, d'une pièce de Webern ou d'une autre œuvre en tant que structure où il n'est plus question, où la dimension formelle entre en jeu.
Et là, Adorno arrive à entendre dans trois notes qu'elles peuvent déjà représenter un développement et un seul son, une coda, sans que jamais l'oreille doive douter du sens de la forme.
C'est ça, parce que selon lui...
C'est fort, le processus, il vient vite. Hein.
Oui, non, parce que et pour lui, une bagatelle de Webern, c'est une... Ou les bagatelles, c'est une symphonie. C'est ce que dit aussi Schoenberg quand il parle de Webern. C'est ouais. Comment condenser en quelques mots un roman ou en quelques sons une symphonie. Et il voit dans les bagatelles de Webern presque des formes sonates, mais des formes sonates dont il ne reste que la force et le dynamisme du conflit qui était pris en charge auparavant par le développement. Ce qu'on entend dans ces pièces, c'est une partie centrale où il y a un conflit. Et ce qui est très intéressant, le texte où Adorno parle de ça, c'est un texte qu'il avait écrit pour des musiciens. C'est-à-dire, c'était un peu des indications pour jouer cette musique. C'est parce que comment faire pour comprendre, lorsqu'on joue cette musique, qu'il faut, avec ces quelques trois notes, créer la tension d'un développement qu'auparavant, voilà, prenait quelques minutes.
Plusieurs phrases. Alors donc, là, on a un son processus. Et alors, le son état, il peut avoir plusieurs types. Il y a, par exemple, le son couleur.
Oui, c'est un son, dit-il, stationnaire ou voilà, un son un peu fixe, comme une texture au début d'une pièce de Ligeti, par exemple.
Atmosphère, oui.
Dans l'atmosphère. Et un son où Et le compositeur peut les couper là où il veut. Il n'a pas besoin du temps dans lequel il se déploie
Ouais.
pour s'exprimer.
Alors il y a dans les sons état, il y a aussi le son fluctuant, ça veut dire qu'il est quoi stationnaire quoique évolutif mais sans direction.
Voilà,
Ouais.
il y a une fluctuation, mais tout de suite on comprend cette fluctuation et donc l'oreille peut voilà, passer à autre chose.
D'accord. Et puis le troisième type de son état, c'est le son texture.
Et là, il se passe plein de choses,
Ouais.
mais au bout d'un moment, on comprend aussi que c'est plutôt. Par exemple, il cite Lachenmann une apparition de Ligeti. Il y a une texture très chaotique, et ce chaos ne se résout pas, n'est pas dynamique.
Alors maintenant qu'on a circulé dans ces différents types de sons états, peut-être dire que l'opposition que l'Ironman fait entre ces sons états et les sons processus, en fait, déguise une vraie préférence pour le son processus.
Alors, c'est ouais, on pourrait penser ça, mais
Oui,
en réalité,
c'est pas si net.
et ce qui est très intéressant dans la manière dont Lachenmann conçoit la forme musicale, c'est que très souvent, il va donner de la place à des sons états, des moments où la musique semble s'arrêter, fait du surplace. Et c'est des moments qui impliquent une autre forme de temporalité et qui nous amène aussi à apprécier d'autres dimensions du musical que celles dynamiques, par exemple les grains du timbre et les détails de quelque chose dans quelque chose qui se répète, qui implique une temporalité plus longue, et une durée plus étalée et qui permet aussi d'entendre avec d'autres oreilles les moments plus processuels et dynamiques. Qui ont précédé peut-être.
Alors peut-être qu'on pourrait prendre un exemple de chaque chez l'Ironman lui-même. Voici par exemple l'air du froid de la petite fille aux allumettes, où là on a un exemple plutôt de son processus alors.
Ouais.
Et comme vous disiez, Alvaro Oviedo, donc l'Ironman est aussi capable de faire un son état, c'est-à-dire de jouer avec ce côté stationnaire.
Oui, mais pour proposer une autre expérience du temps, et une sorte de perspectivisme du temps qui fait que dans une même œuvre, on peut passer par des expériences du temps différentes, des expériences du temps qui ne sont pas celles peut-être que l'auditeur met sur cette musique-là, mais qui sont impliquées dans la musique elle-même et dans laquelle l'auditeur doit entrer. Un peu comme face à un tableau, à une anamorphose dans un tableau où il faut prendre le bon point de vue pour apprécier, par exemple, dans Les Ambassadeurs de Holbein, il y a une tête de mort et il faut se mettre de côté pour l'apprécier, pour la voir. Et bien la musique de Lachenmann aussi, met en place une sorte de perspectivisme, de temporalité musicale, et l'auditeur doit aussi trouver les bons points d'ouïe, les bons points de vue pour entrer dans ces différentes temporalités.
Voici un extrait de la fin du quatuor Reigen Seliger Geister de l'Iron Man. C'est le Quatuor Arditi dans la fin du Quatuor Reigen Seliger Geister de l'Iron Man pour parler de cette perspective, de ce perspectivisme du temps. Vous disiez Alvaro Oviedo, pour parler de perspective, vous mobilisez un auteur qui s'appelle David Lapoujade, qui dit qu'on n'a pas une perspective sur le monde, c'est au contraire le monde qui nous fait entrer dans une de ces perspectives.
Oui, voilà. C'est-à-dire ce n'est pas les sujets qui déterminent. Et la perspective, c'est le monde qui nous met dans telle ou telle perspective. Et c'est comme ça qu'il m'a semblé pertinent d'expliquer ce qui se passe chez Lachenmann.
Et Lapoujade a aussi un maniement astucieux, on pourrait dire, de l'idée de potentialité d'expérience pure ou impure. Il a cette phrase, leur manière d'être pure, c'est paradoxalement d'être ouvert à la plus grande hétérogénéité possible, profondément impure en ce sens, capable de toutes les métamorphoses, de chevaucher plusieurs perspectives et de circuler à travers elles.
Ouais. Et, c'est-à-dire, et, une œuvre comme celle de Lachenmann, justement, permet d'entrer dans ces différentes perspectives du temps. Et la question, il ne s'agit plus de séparer entre l'objet, la conscience, le sujet, l'objet, mais plutôt de voir que ce qui est premier, c'est plutôt l'expérience, et que c'est dans l'expérience qu'on peut entrer dans ces différentes perspectives, les chevaucher.
Si ce n'est que cette expérience, elle est d'office pluraliste dans ses modes.
Forcément, oui.
Ouais. Et ça fait aussi que, même si on évolue là dans une pose philosophique très moderniste, ça peut aussi nous donner un rapport différent à certaines plages du passé. On pourrait écouter les harpes, le quatuor numéro 10, opus 74 de Beethoven, et l'entendre avec l'oreille de l'Iron Man, ça donne quoi?
C'est ça qu'il est, dans l'un de ses textes, il parle de cette œuvre-là, et il va l'écouter. Et non pas avec une oreille tonale.
C'est-à-dire à suivre là où sont les cadences, la tonique, dominante, tout ça.
Mais plutôt avec l'oreille que lui, il essaye de développer, cette oreille presque tactile, sensible aux gestes, à l'énergie, à la corporéité des sons. Et donc il propose une toute nouvelle écoute de cette œuvre, et il affirme que les œuvres du passé, et il y a encore plein de choses encore à entendre, et qu'il n'y a pas, peut-être on fait mal à parler d'œuvres de passé comme quelque chose de révolu ou d'achevé une fois pour toutes, mais qu'il y a encore la possibilité d'entendre
et de vivre avec.
Voilà.
Thank you. C'était le quatuor Albanberg dans un extrait du quatuor Les Harpes de Beethoven que Laron Mann nous donne à entendre sous d'autres plis. On pourrait dire pour terminer, Alvaro Oviedo, vous consacrez un chapitre à l'œuvre de Olga Neuwirth qui tente de faire entendre l'espace dans lequel la musique se déploie, mais qui est une écoute qui ne se centre justement pas sur la musique puisqu'il s'agit aussi d'en entendre l'espace. Elle dit à l'occasion d'une de ses œuvres Oulou Moulou à David Sanson: ce qui m'intéresse dans la musique, c'est l'espace, non seulement l'architecture, l'espace proprement dit, mais aussi à l'intérieur de la partition, cet espace orchestral tel qu'il existe par exemple chez Mahler.
Alors oui, quand on parle d'espace en musique, on parle des choses assez différentes, au moins des trois choses. Et la distribution de l'espace, par exemple, de l'octave ou la division oui. des mi-tons, mais aussi l'espace des plans dans une texture, ou encore l'espace dans la salle de concert. Et Neuwirth, il travaille sur ces trois dimensions et comme une dimension qui n'est pas première dans laquelle le son viendrait s'implanter, mais plutôt en les composant. L'espace devient l'une des dimensions de la composition. Et c'est pas que les sons prennent place dans un espace, les sons les constituent.
Et que le son est actif dans la forme, alors.
Elle travaille aussi sur...
C'est ce qui peut se jouer, par exemple, dans Clinamen Nodus, où en effet, mais on retombe sur cette idée de figure, c'est-à-dire que, de même que on peut lire chez Lucrèce, les atomes descendent en ligne droite, entraînés par leur pesanteur, il leur arrive, on ne saurait dire où ni quand, de s'écarter un peu de la verticale, cette... représentation spatialisée des atomes va servir alors de figure pour Neuwirth quand même.
Oui, mais c'est une figure qui est une figure concrète et sensible. Oui. Elle apparaît au moins sous deux formes. Dans les micro-intervalles, il y a une partie de l'orchestre qui est accordé à distance d'un quart de ton, oui. Et puis aussi de manière un peu effective dans les glissando. Et c'est une façon aussi de penser l'espace qui se constitue dans un processus de différenciation et d'écartement des créations d'une différence.
On va donc se quitter avec un extrait de Clinamen Nodus de Olga Neuwirth. Merci beaucoup, Alvaro Oviedo. On peut lire votre livre Faire Sensation, publié par les Presses Universitaires de Rennes.
Merci beaucoup.